Chapitre 2. Bernard Sand est en train de concocter un petit déjeuner luxueux dans sa grande cuisine, vêtu de son peignoir bordeaux. Il sifflote une mélodie familière, tandis qu'avec des gestes assurés, il retourne deux galettes de pommes de terre crépitantes dans la poêle. Il est 7h15, et ses cheveux parsemés de gris sont en bataille, témoins de la nuit qu'il vient de passer. Avant de devenir écrivain à plein temps, Bernard était professeur d'histoire des idées à l'université de Stockholm. Il est désormais l'auteur de romances et sa série à succès autour des sœurs Deville a rencontré un écho international. Après 6 tomes, l'envie de tenter quelque chose de différent commence à le titiller. Ce n'est pas l'ennui qui le guette, mais plutôt la crainte de voir sa carrière d'écrivain s'installer dans une forme de confort trop douillet. Actuellement, Bernard est plongé dans l'écriture du 7e volume de sa série, tout en rédigeant chaque dimanche une chronique sur les relations amoureuses pour le quotidien Expressen, dans laquelle il répond aux questions des lecteurs. Si sa série lui rapporte beaucoup, elle occasionne aussi un flot incessant de tâches annexes qui empiètent sans cesse sur le temps qu'il aimerait consacrer à l'écriture. Hier, il a passé la journée à examiner des contrats d'édition numérique avec les éditeurs des Pays-Bas et de Pologne. Il a également consacré 1 heure à discuter avec son traducteur japonais, sans compter les 3 interviews par mail dont il ne s'est pas encore occupé, ainsi qu'une liste interminable de demandes envoyées par son agent concernant des séances de signature et des apparitions vidéo. À 52 ans, Bernard est le père d'un garçon de 17 ans, Hugo, né de son premier mariage. Et depuis 8 ans, il vit avec Agnetta. De constitution mince, plutôt grand, il arbore un teint pâle, des yeux d'un bleu profond et des sourcils épais qu'il doit tailler chaque semaine. La poêle crépite et une douleur vive le traverse lorsqu'une goutte de beurre brûlant éclate sur sa main. Il dépose les galettes dorées sur 2 petites assiettes, les surmonte d'une généreuse cuillerée de crème fraîche battue, le tout relevé de zeste de citron, d'aneth frais et d'un peu de poivre. À l'extérieur, la matinée est d'un noir profond, typique de l'hiver. La pièce se reflète tout entière dans les fenêtres sombres, comme une scène de théâtre sous les lumières. Agnetta entre, une légère fragrance de parfum flottant autour d'elle. Après ses exercices de respiration, elle a pris une douche et a enfilé un jean et un pull en laine. « Je dois être dans la voiture dans 16 minutes, » dit-elle. Agnetta a encore les joues colorées après sa séance. Son visage brille comme du bronze et de petites perles d'eau scintillent dans ses cheveux noirs coupés très courts. « Un nouveau rouge à lèvres ?» remarque Bernard. « Bien vu. Très joli. Merci. Mais si tu crois que ça suffira pour que je me jette dans tes bras et que je t'embrasse, fais-le. » l'interrompt-il. « Tu trouves vraiment ?» sourit-elle avant de redevenir sérieuse. « Je suis tellement naïve. J'ai tellement de mal à ne pas te pardonner quand... Pardon. Parce que mon cœur bêtement fidèle t'aime, dit-elle en s'asseyant à table. Je t'aime, répond-il simplement. Elle soupire et le fixe. Une ride se creuse entre ses sourcils. Oui, je crois que tu le penses, mais un écrivain devrait comprendre que ce n'est pas suffisant de dire à quelqu'un qu'on l'aime. Il faut le montrer aussi. « Je suis d'accord, » répond-il. Agnetta Nkomo, 37 ans, est journaliste indépendante. Elle rédige des critiques spécialisées dans la danse pour Svenska Dagbladet, réalise des reportages pour l'agence de presse locale Bättre Stadsdel et se charge de faire des recherches pour un podcast sur les crimes. Elle a plusieurs fois demandé à son producteur si elle pouvait intégrer l'émission et intervenir au micro pour analyser les enquêtes policières, pointer les erreurs commises et exposer de nouvelles théories. Elle est persuadée qu'elle pourrait être excellente, mais jusqu'à présent, ses demandes n'ont débouché que sur des réponses vagues et polies. Agnetta a rencontré Bernard lorsqu'elle l'a interviewé pour l'adaptation cinématographique du 1er tome de la série des Sœurs Deville. Il était débordé et n'avait que 30 minutes à lui accorder, mais ce court échange a suffi pour qu'ils tombent amoureux. La main de Bernard commence à trembler. Il attend quelques secondes qu'elle se calme avant de déposer une grosse cuillère et deux de limpe, de couper de la ciboulette et de dresser l'entrée accompagnée d'une coupe de champagne, bien qu'il sache qu'Agnetta ne touchera pas à son verre. On aurait vraiment dû se parler hier, mais tu t'es endormie, dit-elle d'une voix basse en saisissant ses couverts. Même si je ne suis jamais fatigué, il m'arrive de dormir parfois, répond-il en s'asseyant face à elle. Vénus, notre reine, me tourmente durant des nuits insupportables, et pas un seul instant l'amour ne me laisse en paix. Passionnée, soupire-t-elle en commençant à manger. J'aurais vendu mon cul pour avoir écrit ça, répond-il en buvant une gorgée de champagne. Tu es un écrivain incroyable. Parfois. Agnetta essuie sa bouche avec sa serviette en lin et parcourt ses mails sur son téléphone pendant que Bernard apporte deux assiettes de carpaccio, capre et moutarde de Dijon. Bernard, vraiment. C'est adorable, dit-elle en cherchant son regard. J'adore la viande rouge. Mais ce n'est pas de nourriture dont j'ai besoin. C'est plutôt que tu parles à Hugo, comme tu l'as promis. Hier, c'était raté, dit-il en versant de la bière tchèque dans deux petites chopes. Hier, avant-hier, tous les jours. Oui, chuchote-t-il. Qu'est-ce que tu te conseillerais à toi-même dans ta chronique? Demande-t-elle. Prends un fusil à pompe et ouvre la bouche. Non, sérieusement. Il soupire et s'assied. Bernard, ce n'est pas suffisant de préparer un petit déjeuner de luxe à Agnetta, répond-il. Pas seulement. Je ne pense pas qu'elle exige que tu changes du jour au lendemain, mais elle doit sentir que tu fais un premier pas dans la bonne direction avant de lui acheter des roses et du champagne. Parce que c'est ta manière de fuir, dit-elle, songeant qu'elle serait tout de même heureuse d'avoir des fleurs. Elle doit comprendre que tes mots d'amour sont suivis de véritables actes d'amour, que tu es loyal et que tu la soutiens quand ton fils agit comme un idiot, pour qu'elle se sente comme un membre à part entière de la famille, dit-il avec sérieux. Agnetta met ses boucles d'oreilles tout en repensant au dîner de la veille. Elle a pris 10 mg d'indéral pour calmer ses angoisses. Bernard sait qu'elle prend parfois des bêta-bloquants avant des réunions importantes, mais il ignore qu'elle les utilise désormais aussi quand son fils mange à la maison. Hugo a passé le repas penché sur son assiette, portant sa fourchette à sa bouche d'une main tout en repoussant ses cheveux en bataille de l'autre. « J'ai enfin postulé pour ce job à Colt Magazine », a-t-il lancé en mâchant la bouche ouverte. « Je vais à Uppsala demain midi pour rencontrer la rédaction. »« Bravo, ça t'ouvrira des portes », a répondu Bernard. « Je sais pas, ça me semble un peu égocentrique de déblatérer toutes ces platitudes qu'ils veulent entendre. »« Tu n'auras qu'à être toi-même », l'a interrompu Agnetta. « Tu aimes les livres, c'est un sujet que tu maîtrises bien. Montre-leur, c'est tout ce qu'ils ont besoin de voir. » « De toute façon, j'aurai pas le job », a-t-il soupiré, les yeux rivés sur son téléphone. « Fais de ton mieux », a dit Bernard. « C'est pas comme si ça allait remplir le portefeuille tout de suite. »« De toute façon, je sais même pas si j'aurai la force d'y aller », a-t-il marmonné. « Tu auras la force si tu ne restes pas trop longtemps devant les écrans ce soir », a rétorqué Agnetta. « T'es pas ma mère », a-t-il coupé. « Non, mais tu le crois, mais tu l'es pas. » « Mais tu n'as pas besoin de le répéter tout le temps », a-t-elle répondu. « Est-ce que ça changerait quelque chose si je me taisais ?» lui a-t-il balancé en croisant son regard. « Je ne suis pas ta mère, mais je vis ici, et je me soucie de toi », a-t-elle répondu, les larmes aux yeux. « Des larmes, maintenant, pour que papa ait pitié de toi, pour que... » Hugo s'est interrompu au son du bip provenant de son téléphone. Il a jeté un coup d'œil à l'écran avant de quitter la table sans même débarrasser son assiette. Bernard est resté là, tête baissée, évitant le regard d'Agnetta. Hugo a disparu vers l'entrée, la porte s'est ouverte et une voix de femme a retenti. « La Milfella !» a murmuré Agnetta d'une voix faible. Hugo est en couple avec une femme nommée Olga, qui a le double de son âge. Agnetta la trouve belle, presque trop belle, mais elle commence à percevoir une dureté sous cette apparence lisse, comme si Olga tentait de dissimuler sa nature de mercenaire derrière un maquillage scintillant et des vêtements branchés. Sans passer par la cuisine pour les saluer, elle a suivi Hugo jusqu'à sa chambre. Ils ont fermé la porte à clé et mis la musique à fond. Agnetta a pris un somnifère pour parvenir à s'endormir et ignore si Olga a passé la nuit là. Ce matin, tout est calme. Hugo ne se réveillera pas avant midi, à moins que quelqu'un ne le réveille. Bernard a débordé d'une énergie étrange toute la matinée, dansant dans la chambre, soulevant les couvertures au pied du lit et déposant un petit baiser sur chacun des orteils d'Agnetta. Puis il s'est précipité dans la cuisine pour préparer le petit déjeuner pendant qu'elle faisait des exercices de respiration lente pour se calmer. « Tu ne goûtes pas la viande ?» tente-t-il. « Honnêtement, je me sens encore trop triste pour manger, » répond Agnetta en déposant son assiette dans l'évier. Elle se dirige ensuite vers l'entrée, enfile son manteau et commence à le boutonner lorsque Bernard arrive avec une part de gâteau à la génoise et à la pâte d'amande accompagnée d'un expresso. Elle ne peut s'empêcher de sourire en le voyant essayer de la nourrir alors qu'elle enfile ses bottes. Il la suit jusqu'à la voiture en peignoir et en pantoufles. Il fait si froid que la neige tombée durant la nuit restera là jusqu'au lever du soleil, vers 8h30.
« Je ne le dirais pas si je sentais que tu m'écoutais, mais peux-tu expliquer à Hugo que je ne cherche pas à être sa mère ?» demande-t-elle en prenant le café. « Je veux juste avoir une bonne relation avec lui et être traité comme un membre de la famille. »
« Tu as raison, je suis d'accord.
Mais tu ne fais rien, » répond-elle en buvant avant de lui rendre la tasse.
« J'essaie, mais je ne comprends pas vraiment ce que tu veux que je fasse. Il a 17 ans. »
« Oh, merde !» dit-elle en prenant une grande inspiration.
« Tu vois bien que ça fonctionne pas. Surtout parce que tu n'es pas loyal. »«
Mais je veux l'être, Bernard !» l'interrompt-elle doucement.
« Tu dois être de mon côté. Pas tout le temps, mais parfois. »«
Désolé. J'ai besoin de ton amour, » dit-elle en essuyant ses larmes. « J'aime être avec toi, discuter de livres, de philosophie,
moi aussi. » C'est ce que j'aime le plus au monde,
mais ça suffit pas. C'est ça que j'essaie de te dire. J'en peux plus.
Je vais voir avec ma mère si je peux aller vivre chez elle pendant un temps.
Tu vas partir?
Ça ne marche pas.
Je crois que j'ai besoin de prendre un peu de distance,
dit-elle en s'installant au volant, avant de refermer la portière derrière elle et de démarrer. La Lexus d'Agnetta s'éloigne, et Bernard la regarde partir, le cœur battant. Il boit les dernières gouttes de son café, puis repose la tasse sur la borne de recharge. Il songe à réveiller Hugo pour qu'il soit à l'heure à son rendez-vous avec la rédaction de Kult à Uppsala, lorsqu'une voiture de police tourne dans son allée et s'arrête. Bernard ajuste la ceinture de son peignoir, tandis qu'une policière, visage fermé, sort du véhicule et s'approche.
« Bernard Sand ?»«
Oui, » répond-il.
« Un jeune homme qui prétend être votre fils a été arrêté cette nuit, » explique-t-elle.
« Attendez un peu. Il n'avait aucune pièce d'identité. Nous avons besoin que vous confirmiez son identité. »
« Je ne comprends pas bien.
Vous avez un fils qui s'appelle Hugo ?»«
Oui, mais il dort. Je dois le réveiller à 9h. »«
Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ?»«
Hier soir. »
Elle soupire, sort son téléphone et échange brièvement avec un procureur à propos de photos prises lors de l'arrestation à Bredingue.
Puis-je savoir ce qui s'est passé ? Demande Bernard, une boule d'angoisse formant comme un étau dans sa poitrine.
Je ne peux pas répondre à ça tant que vous...
Est-ce qu'il est blessé ?
La femme ne répond pas et reste silencieuse, le téléphone à la main, jusqu'à ce qu'un message arrive. Sans aucune expression, elle tend son écran vers Bernard. C'est comme si un faisceau d'air glacé traversait son crâne. Il chancelle et la tasse tombe de la borne de recharge. Sous une lumière crue, on voit Hugo, le visage sale et le regard effrayé. Il a les traits fins de sa mère, ses cheveux mi-longs en bataille. On lui a enlevé ses piercings à la lèvre et au nez, ainsi que ses boucles d'oreilles et son collier. Sur la photo, ses tatouages donnent l'impression qu'il a plongé ses bras dans de l'argile bleue. Il tient un panneau devant lui. Il n'y a ni nom ni numéro d'identification. Seuls sont inscrits sa taille, le numéro de la photo, le code du district et la date.
« C'est lui. C'est mon fils.
dit Bernard en pressant sa main tremblante contre son ventre.
« Je ne comprends pas. Je suis sûr que c'est un malentendu. Ce que vous avez sûrement entendu des centaines de fois, mais je... »
« Il y a quelqu'un chez vous ?»«
Non, je ne crois pas. »«
Vous ne savez pas ?»«
Je pensais que Hugo était dans sa chambre, mais s'il ne l'est pas, je suis seul à la maison, » répond-il.
« D'accord, merci, » dit-elle.
« Je peux aller vérifier ?» suggère-t-il.
« Vous devez attendre dehors jusqu'à l'arrivée des techniciens, mais si vous avez froid, vous pouvez vous installer dans notre voiture, » l'informe la policière.
« Je n'ai pas froid. Pour l'instant, c'est le cadet de mes soucis. Désolé, mais je dois comprendre ce qui se passe, » dit Bernard, déstabilisé.
Les techniciens de la police scientifique arrivent bientôt. Ils viendront avec vous pour vous aider à vous habiller et prendre ce dont vous avez besoin avant que la maison ne soit fermée.
Dois-je appeler un avocat? Hugo n'a que 17 ans, je suppose que j'ai le droit de savoir pourquoi mon fils a été arrêté.
Il est suspecté de meurtre, répond la policière.